Ja, hier sind wir jetzt zurück bei CKUT und Alain takes over the microphone.
Juste avant les pauses commerciales, on a entendu une chanson de M. Ouvrard qui date de 1929 et ça montre bien de quelle façon finalement la radio changeait un peu les relations entre les gens. Et d'ailleurs, donc, dans toutes les années 20, la radio se positionne comme un instrument de divertissement et d'information. Donc, c'est vraiment la démocratisation de l'information. On disait tout à l'heure, plusieurs journaux étaient propriétaires de stations de radio, mais il faut se rappeler qu'avant la venue de la radio, pour s'informer, il fallait savoir lire. Alors, avec la radio, c'est l'instantanéité. Les gens peuvent être informés plus facilement. On voit aussi à quel point c'est important pour leur divertissement. Dès 1927-1928, il y a le catalogue iTunes, donc pour ceux qui sont un peu plus âgés, ça rappelle des commandes postales qu'on faisait chez iTunes. Il y a la couverture du catalogue, on représente un haut-parleur et là-dessus, il y a différentes formes de divertissement. Donc, il y a des gens qui dansent, il y a un orchestre qui est dessiné, il y a personne qui joue au baseball, donc parce que le sport aussi, c'est important. Donc, tout ça, dès le milieu des années 20, on se rend compte que la radio, ça permet d'apporter du divertissement à bon marché dans les foyers canadiens. Mm-hmm. Et évidemment, il faut faire quand même connaître ce nouveau médium-là. Bien sûr, on le disait, il y a des stations de radio qui entrent en onde. Il faut se rappeler, là, c'est quelques heures par jour. C'est pas des stations qui sont là 24 heures par jour, pas du tout. Mais les gens ne savent pas exactement, le commun des mortels ne sait pas exactement ce que peut apporter la radio. Donc, on organise une semaine de la radio en 1922. On place des récepteurs radio dans des salles de cinéma. Les gens sont invités à venir entendre la radio dans des salles de cinéma. On organise un salon de la radio en 1924 pour montrer un peu comment on produit des émissions de radio. Et c'est très différent du studio où nous sommes aujourd'hui, où il n'y a que des micros et des fils. Dans ce temps-là, on avait même un piano, souvent un piano à queue, pour permettre aux musiciens de se produire en direct parce qu'il y avait peu de moyens d'enregistrement. Donc, la plupart des émissions de musique qu'on avait, c'était avec des musiciens en direct dans le studio.
And that was not just in Canada, that was worldwide, that you had live programming on radio.
Tout à fait, yeah, c'était yeah. La façon de faire.
We often forget how much live programming there was. It's quite exciting to do that, yeah.
C'est presque le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'exception, yeah. les émissions qui sont en direct. À l'époque, c'était la norme. La qualité des disques n'était pas suffisante. Il n'y avait pas beaucoup de disques encore. Donc, on était vraiment... on invitait les musiciens en studio. Il y avait un orchestre pour CFCF et pour CKAC. On a commencé aussi à ce moment-là à faire des pièces de théâtre à la radio. Donc, des pièces de théâtre, on est allé vers les radio-romans, les soap opera, puis ça, on en parlera peut-être davantage dans la troisième émission. C'était une forme de divertissement qui était très populaire. On avait, je pense que dans les années 40, la station CKAC avait 22 radio-romans par semaine à proposer à ses auditeurs. L'explosion, on peut parler d'explosion de la radio, là, c'est vraiment phénoménal. C'est aussi phénoménal que l'Internet. On passe de à peu près un millier de personnes qui ont un permis de réception en 1921 à travers le Canada, mm-hmm. à 700 000 en 1931. Donc, vraiment, en 10 ans, c'est l'explosion. Tout le monde veut avoir un récepteur radio à la maison.
Yeah, it took quite a while, but once it took off, it really was unstoppable. There was also a lot of sports on radio, I think.
Il y avait beaucoup de sports, yeah. effectivement. Vers 1921-1922, les Américains organisent la diffusion de matchs de boxe entre yeah. Jack Dempsey et Édouard Carpentier, donc un Américain et un Français qui se sont battus là, au New Jersey, je pense. Puis on dit qu'on a rejoint à ce moment-là 200 000 personnes, soit directement par... bon, il y a des gens qui étaient sur place, il y a des gens qui avaient des appareils récepteurs chez eux, mais encore là, souvent, on avait placé des récepteurs dans les salles de cinéma. Les gens pouvaient aller écouter. Oui, une sorte de l'ancêtre du sports bar. Uh-huh. Écouter les matchs. Il y avait un droit d'entrée, mais fait à noter, c'est que l'argent qui était payé pour aller écouter est retourné en France pour la reconstruction de la France après la Première Guerre mondiale. Donc,
okay. yeah.
c'est quand même des fins là, caritatives là, qu'on a recueilli de l'argent.
Yeah, I find it's always fascinating with radio that you have to have these two parts. You have to have the broadcast, but then you also need the receptors, and you needed receptors everywhere. So there was a large production of radios, and we had a lot of radios produced in Montreal. I mean, the museum is one of the big factories where radios were produced for RCA, but there were many other places in Canada. Can you talk about that?
Oui, bien sûr. Il y avait donc en plus de RCA qui était dans l'usine de Saint-Henri où se trouve le musée, il y a Norton Electric qui était à Pointe-Saint-Charles, donc à quelques coins de rue de RCA qui était aussi grand comme usine. Et il y avait Marconi qui était le troisième grand joueur là, à Montréal. Mais il y a eu d'autres fabricants à travers le Canada. Il y avait la compagnie Rogers, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais Rogers... le père ou le grand-père, j'oublie, là, a eu un rôle important aussi dans l'invention de la radio parce que c'est lui qui a permis qui a conçu les lampes à chauffage indirect, donc qui a permis d'avoir des radios qui fonctionnent sur le courant alternatif et non pas avec des batteries, parce qu'au début, pendant les 5-6 premières années, ça prenait un ensemble de batteries assez lourdes, assez coûteuses pour faire fonctionner les radios.
Yeah, I find it so funny to hear where they actually plugged in the radio after they could actually take the current that was in the house. It was actually where exactly? It wasn't in a plug in the wall. It was.
C'était au plafond, là, parce que les maisons, enfin l'électricité dans les maisons servait d'abord pour l'éclairage. Il n'y avait pas des petits appareils électroménagers. Il n'y avait pas de grille-pain. Il n'y avait pas d'aspirateur. Il n'y avait pas de mixette. Donc il n'y avait pas de prise de courant dans les murs comme tel. On utilisait simplement la prise qui est du plafonnier. Où là, on ajoutait une douille supplémentaire pour pouvoir brancher les radios. Donc, ça pendait littéralement du plafond.
Puis, you needed long arms for that.
Aussi.
And we produce all kinds of radios. It's not one type. I mean, I'm from Germany. In Germany, there was one specific radio that was everywhere. While here in Canada, we are quite diverse. So you could choose what kind of radio you wanted to have.
On pouvait les choisir. Donc, il y a eu des designers qui se sont... penché sur la façon, enfin, pour faire des dessins, des formats d'appareils plus attirants, etc. Il y en a eu à Montréal. Il y avait André Morin qui a travaillé pour RCA. Il y a aussi John Vassos qui est celui qui a popularisé un peu le streamlining. C'est ça. Donc, il introduisait souvent un petit peu de chrome dans ses radios qui étaient... Le reste du cabinet était en bois. Et puis, il rajoutait des lignes de chrome avec des formes un peu arrondies, etc.
Yeah, we have a lot of those in the collection of the museum.
Et les premières radios donc, étaient faites en bois, comme je dis, parfois on introduisait un peu de métal. Mais par la suite, on a commencé à avoir des radios faites en Bakelite, en Bakelite en français, qui permettaient de mouler selon le bon plaisir des fabricants, puis ensuite des plastiques. Puis entre la Bakelite et les plastiques plus modernes, il y a eu beaucoup d'expérimentations faites avec différentes formes de plastique. Pas toujours bien réussi. Souvent, c'est un plastique qui allait se transformer avec le temps, continuer à durcir, ce qui fait que les appareils, le boîtier craque facilement. Surtout que les lampes des radios créaient aussi une source de chaleur qui a fait sécher davantage les radios. J'en ai acheté un qui, juste pour le plaisir de voir à quel point ça pouvait se déformer. La radio est inutilisable. Je ne pourrais jamais l'ouvrir pour le réparer. Mais ça montre à quel point on a voulu faire des expériences avec différents types de plastique.
We forget about these difficulties of old technology and the heat that tubes can actually produce. Yeah, we are already coming up to the end of the program. Are we at the time that we should... We still can talk a little bit, apparently. Yeah, we have really a lot of radios at the Musée des Ondes, and we are also observing that there are some difficulties with the different materials. Nevertheless, there are some cool radios that are looking like untouched, and those are often the oldest, while radios with plastic, as said.
C'est toujours impressionnant de pouvoir faire jouer les anciens appareils, puis d'entendre vraiment le son qui était produit à ce moment-là. Il y en a qui avaient quand même une très bonne qualité sonore, mais il faut penser que c'était quand même seulement en mono, il n'y avait pas de stéréophonie. C'était pas des amplificateurs très sophistiqués, mais quand même, ça donnait un très bon son là, lorsqu'on pense aux grandes consoles en bois de la fin des années 30 qui ont un son très riche.
Yeah, the radio was partly a real prestige piece in the living rooms before the television came.
Exactly.
And there are a lot of events, I think, that also inspired radio design. We have to remember that radio really needed design. There was no design preset for that.
Exactement. On a beaucoup expérimenté avec les formes et on a passé de radio avec des modèles de bois, puis des très grands modèles juste avant la Deuxième Guerre.
Yeah.
Après ça, avec l'arrivée des transistors, là, c'est tout le contraire. On est allé vers des modèles de plus en plus compacts, de plus en plus petits, légers, qu'on pouvait apporter partout, parce que les consoles de bois de 1936, on laisse ça au salon, mais les radios de poche transistors, c'était possible de les apporter à bicyclette, c'était possible de les apporter sur la plage. Donc, on était en mesure de faire des modèles beaucoup plus petits.
Yeah.